Une création.
Blast.
Avant de commencer cet épisode, un mot important. Il est question ici de violences sexistes et sexuelles au travail. Certains récits peuvent donc être difficiles à entendre. Je tiens également à remercier toutes les personnes qui m'ont contacté à la suite de mon appel à témoignage. Merci pour votre confiance et pour le courage que cela demande de se raconter. Bonne écoute.
Il est indispensable que la honte change de camp. Et la France ne doit plus être un de ces pays où les femmes ont peur.
Vous ne comprenez pas à quel point il y a des métiers difficiles. Qui d'entre vous a déjà fait un métier pénible ?
Il te vient, il te dit bonjour et tout ça, il directement t'embrasse. Il te prend de surprise.
Mais moi-même, ça m'est arrivé, il y a un client qui m'a touché les seins.
À la fin, tu trouves que ton corps comme femme, c'est une arme contre toi. Je m'appelle Yasmina Tellal. Je suis d'origine de Tanger, Maroc. Mais j'ai grandi en Espagne. J'étais adjointe de responsable des magasins de prêt-à-porter. Après la crise de 2012, tous les magasins ont commencé à fermer avec la crise. Je n'avais pas de travail. Alors la société nous a contactés, qu'elle était en train de recruter des filles ici sur le territoire français pour travailler pendant un an. J'étais à les îles Canaries et j'ai pris l'avion. Je suis arrivée ici... sur le territoire français pour commencer à travailler en fait. Jamais j'ai travaillé dans l'agriculture, c'est la première fois. Quand il y a une crise et tu as besoin de travailler, tu acceptes, mais je dis quand même, je vais venir ici en France, en Europe, je ne vais pas être envoyée à le bout du monde. C'est l'Europe quand même, c'est le rêve français. Les responsables sur le territoire français m'ont contacté et m'ont dit que normalement, ici, il y a un CDI, logement, transport, tout inclus, le SMIC français. Et une fois qu'on va arriver ici, on va signer le contrat. C'était moi et un collègue de moi, une copine. Une fois que j'ai arrivé ici, j'ai rien de trouvé tout ça. J'ai pas signé le premier contrat. Ils m'ont dit qu'il faut attendre un petit peu. Parce que le patron il est en retard. J'attendais, et après 2 mois, ils m'ont contacté tout ça. Et moi, ils m'ont embauché. Sur le premier travail que j'ai fait, c'était dans l'asperge, dans les conditions d'asperge. Ce n'était pas marqué le prix, ni combien de temps on va travailler. C'était un contrat vide. Et les fiches de paie aussi, il n'est pas marqué. Il te marque seulement combien tu vas recevoir le fin de mois. Notre cauchemar, il a commencé quand on est arrivé tout ça. Ils ont déjà proposé pour aller à être hébergé avec eux, qu'on a refusé. Et après ça, ils ont commencé premièrement à te toucher, à te donner des bisous normaux comme des amis. Mais après, ils ont commencé l'attouchement, vraiment l'attouchement, de te toucher les fesses. Et après, ils ont commencé directement à t'embrasser. Te dit bonjour et tout ça, et directement t'embrasse. Il te prend de surprise. Quand tu lui dis, mais qu'est-ce que tu fais tout ça? Mais elle te dit, mais non, mais naturel, on est des amis, machin, tout ça, mais elle t'embrasse comme ça. Après, en 2013, un des responsables qui est venu à me chercher, il m'a dit, je veux parler avec toi et tout ça. C'est en ce moment, il a arrêté la voiture, il a commencé à me toucher. Il a mis mes mains directement dans son pantalon pour toucher son truc. J'ai commencé à crier, à dire « Mais qu'est-ce que tu fais toi et tout ça ?» Et en fait, qu'est-ce que tu veux de moi ? Moi, je suis venue pas travailler, je suis pas venue pour... Elle m'a dit « Mais non, moi, tu me plais beaucoup, je veux que tu sois ma copine, je te paye 300 euros chaque mois. Et toujours, tu vas trouver du travail. » Et moi, j'ai dit « Désolée, tu me ramènes maintenant chez moi. » Il m'a ramené chez moi, mais j'ai entré tellement, tellement mal que je ne savais pas quoi faire et j'avais peur. Je savais qu'à la fin, ça ne va pas aller. Et c'est vrai. Le lendemain, elle m'a contactée, elle m'a dit « Votre contrat s'est arrêté ». Ils nous ont puni pendant 2 mois sans travailler. Et après, ils nous ont contactés parce qu'ils avaient besoin de filles. Et on a commencé à travailler dans l'insalade et tout ça, dans l'emballage d'insalade à Châteauroux. Vraiment, c'était le cauchemar total parce qu'elle venait, elle savait tellement que tu es dans un point très faible, que tu as besoin de travailler. Elles sont des très, très puissants. Alors, elle devenait directement, elle commençait à embrasser devant tout le monde à la force. Elle commençait à me toucher directement devant les autres salariés, mes collègues et tout ça. C'est comme que tu es une marchandise publique. Et même si tu dis qu'est-ce que tu fais, tu avais de la honte et tout ça, arrête, tu fais pas ça, s'il te plaît, tu es en train de m'humilier devant tout le monde. Chaque fois, mon contrat s'arrêtait à cause de ça, de dire non. Et à la fin, tu te laisses faire. Je me laissais embrasser. J'étais obligée. Mais je n'ai pas donné mon corps, par contre. Ça, c'était la seule chose que je n'ai pas donnée. Ils ont essayé avec toutes les moyens, mais toujours, je disais non. Moi et ma copine, on était les seules filles qu'on a travaillé dans cette société qu'on n'a pas entré chez eux, dans son appartement. Toutes les filles, elles ont passé l'épreuve. Des services sexuels pour qu'ils travaillent. Toutes les filles, c'est toutes les filles qui viennent de l'Espagne avec des titres de séjour espagnols, qu'elles n'ont pas le droit de travailler ici en France, qu'elles viennent exclusivement pour travailler comme détachées dans cette milieu agricole. Les travailleurs françaises, non. Ils avaient ces droits, la pause, personne ne les harcèle.
Moi, j'ai dit, notre corps n'est pas l'objet des clients dans l'hôtel. Voilà, c'est pas parce que tu es venu travailler, tu cherches de l'argent pour nourrir tes enfants, que le client peut profiter de ça pour pouvoir t'utiliser, pour pouvoir utiliser ton corps, pour pouvoir faire tout ce qu'il a envie de toi. Donc, arrive un moment, il faut que le travail des femmes de chambre, il faut que les gens en parlent. On n'avait pas la force de dénoncer, parce que le travail des femmes de chambre, c'est un métier qui est invisible. Les gens n'en parlent pas, les gens s'en foutent. Comme les gens n'en parlent pas, les gens profitent de ce système pour venir faire du n'importe quoi dans les hôtels. C'est là qu'ils viennent, quand ils voient la femme de chambre, c'est là qu'ils vont se mettre nus. Et quand tu frappes la porte, le client ouvre la porte, il te montre sans cesse. Souvent, il te touche les seins. Souvent, il t'insulte. Il y a tout dedans. Il y a tout, tout dans l'hôtellerie, il y a tout dedans. Mais moi-même, ça m'est arrivé, il y a un client qui m'a touché les seins. Après, je suis allée me plaindre. Après, le groupe a comme envoyé un courrier d'excuses. C'est tout. C'est tout ce qu'ils ont fait.
Il y a eu beaucoup de revendications à l'hôtel Ibis de Batignolles avec une forte mobilisation de la part des travailleuses.
Tiffany Coissenard, juriste chargée de mission à l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail.
Notamment autour de la sous-traitance, la dénonciation en fait de ce que produit la sous-traitance. Mais il n'y avait pas que ça comme revendication, et il y avait justement la dénonciation de violences sexuelles dans le contexte hôtelier. Dans le secteur hôtelier, un facteur de risque qui est particulièrement important, c'est qu'on nettoie des chambres avec des lits, avec tout l'imaginaire qui va avec, et donc l'imaginaire de l'intimité. Et donc, les violences qui vont venir de la part du client, il va projeter en fait la travailleuse dans un imaginaire, le stéréotype en fait de la femme de ménage qu'on va retrouver dans la pornographie, avec la tenue de femme de ménage, ce qu'on va appeler communément la soubrette, qui est un terme qui n'est évidemment pas le nôtre, hein, mais qui est le terme qu'on va retrouver dans ces imaginaires-là, dans ces stéréotypes-là. D'être là au service des hommes, et donc aussi sexuellement, en fait. Et puis, les violences, elles émanent pas que du client, elles émanent aussi des directeurs d'hôtels. Je pense à un dossier qu'on a eu en cour criminelle l'année dernière, d'une femme de ménage qui avait été violée par le directeur d'hôtel. On va retrouver dans les rapports de pouvoir, pas seulement un rapport de classe, mais aussi un rapport de race. C'était un homme blanc d'une 50aine d'années, et il s'est beaucoup appuyé là-dessus dans sa défense ce qui a beaucoup été présent, même dans la manière dont la peine a été pensée, puisqu'il a été condamné fort heureusement, c'est de montrer de lui que c'était un homme intégré dans la société. On ne parle pas comme ça des violeurs lorsqu'ils sont racisés, qu'ils sont d'origine étrangère. Il y a aussi le fait que ce soit de la sous-traitance. La sous-traitance, c'est un facteur de risque en tant que tel. C'est particulièrement dangereux parce que du coup, il y a un abandon de la part de chaque structure de leurs propres obligations. Et en fait, le risque ici, quand il y a des violences dans ce cadre-là, c'est que l'employeur de la victime va dire « Moi, ça ne me concerne pas parce que les violences, elles ne se sont pas passées dans mon siège, elles se sont passées dans la structure dans laquelle tu interviens. » Et à l'inverse, la structure dans laquelle la victime est intervenue va dire « Ah bah oui, mais moi, j'ai pas de contrat de travail avec toi, donc ça me concerne pas. » Voilà, et puis l'idée, c'est que du coup, bah, ça concerne personne, personne n'est responsable, et puis bah voilà, comme ça, on s'arrête là, quoi. C'est pas du tout une problématique juridique, hein. Juridiquement, on a les éléments pour replacer la responsabilité de chacune de ces structures. Mais ça rend la situation plus opaque pour la victime, qui ne sait pas du coup qui est responsable, qui elle va pouvoir saisir. Ça permet aux employeurs de se dédouaner de leurs responsabilités. Tous ces métiers-là, hein, que ce soit la resto, le ménage, aide à domicile, l'hôtellerie, tous ces métiers, en fait, ils ont pour point commun d'avoir des horaires décalés, d'avoir vraiment une pénibilité, ça crée de la fatigue. Évidemment, quand on est très fatigué, quand on a beaucoup de choses à penser, quand on a un risque de burn-out qui est présent dans le métier en tant que tel, ça crée une vulnérabilité. Et la vulnérabilité, c'est un point d'accès en fait, pour les agresseurs, un point sur lequel ils vont pouvoir se fonder pour commettre les violences. Dans le milieu qu'on appelle le milieu du care, donc je pense aux aides à domicile, auxiliaires de vie, etc., il y a d'autres facteurs de risque qui sont vraiment propres au fait qu'on intervient auprès de la personne, bien souvent chez elle. Et donc là, on rentre dans l'intimité de l'agresseur, en fait, on est chez lui, donc le sentiment d'impunité peut être encore plus présent. Et puis, il y a vraiment cette idée que l'aide à domicile, déjà, elle est là pour faire du travail domestique. C'est aussi la manière dont les agresseurs perçoivent leur épouse, perçoivent les femmes de manière générale, avec ce regard misogyne sur la place qu'on tient dans la société. Cette femme qui vient pour faire le ménage, pour lui faire à manger, pour s'occuper de lui, elle fait finalement les mêmes tâches que son épouse, et donc, ben, il estime qu'il est en droit d'exiger la même chose que ce qu'il exige de son épouse, et donc notamment du sexe. Et donc il va finir par regarder l'aide à domicile comme celle qui lui doit du sexe. Le dossier auquel je pensais, l'agresseur donc, est un bénéficiaire qui a autour de 90 ans. Il la touche en fait pendant qu'elle lui fait la toilette. Il la touche dans tout le dos, puis il touche ses hanches et sa poitrine en tenant des propos à connotation sexuelle. La stratégie qu'on peut voir bien souvent dans ces dossiers-là, c'est que le bénéficiaire va déguiser ses agressions en un soin. Donc il ne va pas agresser à un moment inopiné. Il va agresser au moment où il est sous la douche, nu, que madame donc, lui fait sa toilette. Et il va faire semblant d'avoir glissé, il va faire semblant de ne pas pouvoir se tenir correctement, etc. Sauf qu'en réalité, on voit bien que ce sont des stratégies, puisque c'est accompagné de propos à connotation sexuelle, que c'est accompagné de regards appuyés à connotation sexuelle, que bizarrement, au lieu de se rattraper au bras, il se rattrape sur la poitrine de madame, sur ses hanches. Donc en fait, c'est très clair que ce sont des agressions. Le rapport au corps, qui est très présent du coup dans le milieu du soin, va devenir un point d'appui pour les agresseurs.
Moi, j'ai essayé de parler en 2014. Il y a un matin, à 6 heures du matin, je trouve que les pneus de la voiture de ma copine étaient crevés, les 4 pneus. Je lui ai dit, OK, alors je vais aller frapper la porte à le syndicat ici. Il y a l'inspection de travail. Ça, c'est le plus fort. Elle m'a dit, de toute façon, l'inspection de travail, elle ne va pas vous écouter, qu'il s'agisse au moins de connaissances. On était pires que les animaux, parce que quand même, les animaux, ils ont les droits ici. Nous, on était pires, parce qu'ils nous mettaient un à côté de l'autre, à côté de l'autre, à côté de l'autre, en fil, et ils disaient, toi, tu viens pas, mais ils choisissent au moins les filles qui sont un peu belles, un peu bien, et les filles qui sont avec des foulards, qui sont machin, qui sont pas très jolies, qui sont pas très bien, et machin, tout ça, physiquement, elles les ont renvoyées. Et c'est en ce moment, la dernière fois, c'était en avril 2016. J'ai développé la sclérose en plaques. J'ai passé 4 mois avec un vertige très très fort, mais je ne savais pas que c'est quoi cette maladie. Mais seulement qu'avec le stress, que j'arrêtais pas de pleurer, tu es humilié devant de tout le monde et tout ça, tu rentres, tu commences à prendre un dentifrice, et le savon pour laver ta bouche, tellement que tu tellement mal avec toi-même. C'est comme que tu te sens sale avec toi-même. Et à la fin, tu te trouves l'impuissant, tu trouves que ton corps, comme femme, c'est une arme contre toi. Et ça, c'est, je suis venue de l'Espagne, dans un pays que j'étais bien, moi. Je ne peux pas dire le contraire. J'étais bien en ce moment. Jamais j'étais harcelée, jamais j'étais agressée. J'arrive ici avec ces idées. Vraiment, ça m'a choquée. Et plus, comment ils ont réagi, les responsables françaises, les entreprises françaises, elles étaient d'accord. Elles voyaient ça. Elles voyaient un responsable espagnol venir lors de la pause en train d'embrasser une travailleuse et elle fermait la bouche et était en train de rigoler. C'était une période que j'étais après en psychologue, psychiatre et tout ça pour arriver à être avec moi-même, bien avec moi-même. Parce que j'avais tellement de cauchemars que j'ai passé que c'était très très fort. Et je me sentais mal avec moi-même. Je me sentais seule. Je me sentais mal pour être une femme. C'était la première fois de ma vie que je me suis sentie très très mal parce que je suis une femme, pour ma faiblesse.
Dans nos dossiers, et je pense en fait plus largement l'ensemble des victimes de violences masculines, peu importe le type de violence qu'elles ont subi, leur santé est toujours dégradée. Ça va être un impact sur le sommeil, un impact sur les relations sociales, la confiance, la famille, la capacité de concentration, les femmes qui sont aussi des mères qui vont avoir beaucoup plus de difficultés à répondre à leurs obligations de mère. Et puis une hypervigilance avec la victime qui va mettre en place tout un tas de paramètres pour éviter d'être de nouveau victime. Et donc en fait, c'est tout le temps qu'elle déploie à penser à tout ça, qui est extrêmement dévastateur, qui prend toute la place dans son esprit, dans son corps. Et donc évidemment, on ne peut pas travailler dans ces conditions-là, mais il n'y a pas que le travail. Enfin, en fait, il y a plein d'autres choses qu'on ne peut pas faire, et ça atteint finalement tous les pans de la vie.
J'étais obligée de être en soumission totale. J'ai baissé la tête. Je me suis laissée faire. C'est pas parce que j'étais faible, sans moi, j'étais obligée. Et après ça, un jour, je me suis réveillée, j'ai dit c'est bon. Ils m'ont détruit la vie, j'ai rien à perdre, j'ai perdu tout. J'ai gardé toujours toutes les fiches de paie, toutes les preuves et tout ça. Ce qu'ils ont fait, j'ai gardé, j'ai dit un jour, ils vont payer ça.